Voilà, c'était Plage isolée, soleil couchant, Polo and Pan, un extrait de leur album Plage isolée. Il est 8h passées de 16 minutes sur Radio Panique. Ce sont les promesses de l'aube et je suis en compagnie de Cédric Leterme. Bienvenue Cédric.
Merci, bonjour.
Et merci d'être venu de si grand matin, de si loin aussi. Tu viens de Liège, donc
de Liège, voilà.
Triple merci d'être arrivé à 8h dans les studios de Radio Panique. Certains Bruxellois n'en sont pas capables. Donc Cédric, si je t'ai invité, c'est parce que tu viens de coordonner le dernier numéro du Grésé Aïko consacré à l'insertion socio-professionnelle des prémices militantes au dévoiement politique. Et donc dans ce numéro, eh bien, vous abordez toi et les autres auteurs, que ce soit Corinne Gobin, Bruno Frère, Thierry Muller ou Frédéric Van Lerberg et d'autres collectifs, la question de l'insertion socio-professionnelle. Et vous commencez par dresser un portrait historique un peu de ce concept qui est quand même malgré tout assez francophone en Belgique. En tout cas, c'est une réalité qu'on retrouve surtout à Bruxelles et en Wallonie et très peu en Flandre. Et donc, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de ce secteur de l'insertion socio-professionnelle? Professionnel, pardon, je vais y arriver.
Oui, ça va pas être évident quelquefois, à mon avis. Le mot est pas très sexy. D'ailleurs, ça fait un titre un peu imbuvable sur la couverture. Oui, c'est effectivement une histoire qui est assez francophone en Belgique pour des raisons liées à la structure de l'économie belge et qui ont fait que la crise de l'emploi qui a généré finalement l'émergence de ce secteur-là était beaucoup plus forte et beaucoup plus structurelle en Wallonie et à Bruxelles qu'en Flandre. Donc c'est une des parties qui explique, c'est une des raisons qui explique le fait qu'on a une histoire de l'insertion socio-professionnelle, on va dire ISP pour faire court, qui est radicalement différente en Belgique francophone par rapport à sa version flamande. Et donc l'histoire de ce secteur-là, elle commence dans les années 70 en fait. Donc c'est une histoire qui est relativement récente. C'est intéressant aussi de le savoir, surtout pour nos plus jeunes auditeurs éventuellement. Mais c'est vrai que c'est un secteur qui aujourd'hui fait pleinement partie du paysage institutionnel belge. C'est des milliers d'emplois, c'est des centaines de structures, etc. Donc c'est des décrets qui encadrent. C'est un secteur qui est vraiment bien installé, bien institutionnalisé. Or il est il est assez récent en fait, et donc il émerge au milieu des années 70 dans le cadre de la grosse crise économique qui a lieu à ce moment-là. Et alors on parle aussi à l'époque de crise des dites 30 glorieuses. Alors on n'aime pas trop cette terminologie-là au Grésé en particulier, on essaie de prendre du recul par rapport à ça, mais en tout cas c'est l'idée que ces trois fameuses décennies de croissance, de plein emploi, de développement continu des droits économiques et sociaux qui ont caractérisé l'après-Seconde Guerre mondiale, elles prend brutalement fin au milieu des années 70 avec le choc pétrolier qui est finalement l'étincelle mais qui va révéler toute une série de contradictions fondamentales. Et donc en l'espace d'un ou deux ans, on a notamment une explosion du chômage, en particulier chez les jeunes, en Belgique, mais dans la plupart des grandes économies développées, c'est la même chose. Et donc s'écroule avec ce moment-là et cette crise-là l'idéal un peu des sociétés de plein emploi, et donc l'idée qu'on pourrait axer la citoyenneté, ce qu'on va appeler la citoyenneté sociale, donc le pendant économique, socio-économique de la citoyenneté démocratique, c'est ce qu'on appelle la citoyenneté sociale, donc c'est la possibilité de pouvoir participer économiquement à la vie de la société, et tout ça on l'avait misé sur l'emploi, donc on avait misé l'accès à un revenu, l'accès à des droits sociaux, à une identité sociale, etc., on a misé tout ça sur l'emploi, et sur l'idée donc que tout le monde pourrait avoir un emploi. Or, cette idée vole en éclats au milieu des années 70. Et donc, il faut d'abord prendre acte de cette réalité-là. Et donc, émerge à ce moment-là toute une série d'initiatives qui sont éparses, qui sont animées d'un fort idéal communautaire à l'époque. On n'est pas loin de mai 68, comme le rappelle un des pionniers du secteur dans le numéro. Donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer à la fois de vivre selon cet idéal communautaire, autogestionnaire, entre nous, etc., mais aussi de proposer aux personnes qui, de plus en plus, sont laissés sur le bord du chemin et ne sont pas capables de s'intégrer dans le marché de l'emploi et donc d'avoir accès à cette fameuse citoyenneté sociale fondée sur l'emploi, d'essayer avec ces personnes-là de construire quelque chose pour, alors on parle pas encore de réinsertion à l'époque, mais en tout cas pour construire avec elles un projet pour leur donner la possibilité de travailler directement. Et donc les premières structures émergent à ce moment-là en Wallonie, à Bruxelles, de façon très éparse, un peu isolée, fragmentée. Et puis petit à petit, elles vont se rendre compte de leur existence mutuelle, elles vont commencer à se parler entre elles. Elles vont commencer du coup à essayer de codifier un peu leurs pratiques, hein, quelque part, de se dire bah tiens, de quoi est-ce qu'on aurait besoin, est-ce qu'il y a des choses qu'on partage ensemble, est-ce qu'on pourrait partager nos expériences de un, et est-ce qu'on pourrait aussi ne pas commencer à développer des revendications vis-à-vis des pouvoirs publics. Donc il va y avoir une volonté de ces différentes structures d'essayer d'obtenir des financements, d'essayer d'obtenir une reconnaissance de leur travail. Il y a toute une question autour de la légalité de ce qu'elles font, puisque le but en fait c'est d'essayer de permettre à des, alors au début c'est beaucoup des jeunes hommes, de pouvoir travailler directement, donc de les remettre au boulot, notamment via des activités de recyclage, des activités de construction, de réparation, des choses comme ça. Et beaucoup de ces activités-là se font dans l'allégalité, hein. Les acteurs de l'époque parlent d'allégalité, mais en fait c'était illégal parce qu'ils payent pas de cotisation, c'est pas encadré, machin. Donc l'idée c'est d'essayer de donner quand même un cadre juridique à ça, d'avoir une reconnaissance du travail qu'ils font, qui est un travail à la fois... Alors, de nouveau, on ne parle pas encore à l'époque de réinsertion, mais il y a quelque part cette idée-là de réinsérer sur le marché du travail, de redonner des compétences, mais aussi de faire un travail d'accompagnement social. Et donc, c'est vraiment ce qui caractérise le secteur de l'ISP, en tout cas associatif. C'est une volonté de lier un travail économique et un travail social. Et donc, de viser aussi l'émancipation sociale et économique des individus, et donc leur participation à la société, etc. Et donc ça va se faire petit à petit. Les pouvoirs publics vont commencer à reconnaître effectivement l'intérêt de ces structures-là. Les premiers financements vont arriver, mais aussi les premiers cadrages, du coup, hein, puisque qui dit financement dit contrepartie, dit professionnalisation, critères de reconnaissance des publics, etc. Et donc c'est un peu l'historique qu'on essaye de dresser, c'est de dire c'est un secteur qui a émergé vraiment sur des bases militantes, communautaires, autogestionnaires, libertaires, enfin des idéaux très très forts, mais qui petit à petit s'est fait rattraper, d'une part par l'institutionnalisation, la professionnalisation qui vient avec les reconnaissances institutionnelles et les subventions qui vont avec, et qui par ailleurs s'est fait rattraper aussi par la contradiction de l'état même du marché du travail et des politiques néolibérales qui vont se mettre en place et qui quelque part vont utiliser ces initiatives-là, d'une part pour se dédouaner de leur propre échec, hein, c'est-à-dire les politiques publiques au moment même où elles désinvestissent massivement dans l'enseignement, au moment même où elles mettent en place des politiques d'austérité qui suscitent une explosion du chômage, qui fragilisent les statuts dans l'emploi, etc., eh bien, elles vont financer ces structures-là pour qu'elles rattrapent un peu la sauce derrière, quoi. Et donc, c'est une façon, et c'est un phénomène qu'on observe dans d'autres secteurs, hein, c'est une façon de privatiser à moindre coût toute une série de politiques publiques, d'en s'en remettre aux associations pour qu'elles fassent le boulot derrière nous, mais pendant qu'au même moment, on crée les conditions qui génèrent un peu l'arrivée de ces associations-là. Et puis alors, il y a d'autres étapes qui vont arriver après, avec notamment le très très gros morceau au début des années 2000, qui est l'imposition de l'état social actif, hein, donc cette logique d'activation des demandeurs d'emploi, on pourra probablement y revenir, mais qui a vraiment là été un tournant pour le secteur, parce qu'il va se retrouver... être mis au service finalement de logiques d'exclusion, alors même que son but affiché est de réinsérer les personnes. Or, avec l'activation, c'est-à-dire l'idée qu'il faut que les personnes qui bénéficient de prestations sociales, notamment des allocations de chômage, prouvent qu'elles recherchent activement de l'emploi. Et une des façons de prouver ça, c'est de rentrer en formation dans ces centres de réinsertion professionnelle. Mmh. Et donc, ils vont se retrouver malgré eux pris dans cette logique-là.
Et du coup, tout à l'heure, tu dis au début, c'était à la fois une réinsertion professionnelle mais aussi sociale, et donc il y a aussi ce passage vraiment à une insertion, une ISP qui est fondamentalement axée sur l'emploi et aussi surtout l'emploi salarié, et donc qui est quand même aussi qui va de pair avec justement ce que tu évoques à l'instant de structuration, enfin restructuration aussi du marché de l'emploi en Europe notamment, mais aussi ailleurs dans le monde. Et donc comment ça a été vécu ça, justement, parce que comme tu dis, c'était à la base l'idée, c'était aussi de permettre aux gens de se retrouver en société et pas seulement via un travail salarié, c'était aussi via un travail communautaire, via le lien social qu'on pouvait tisser via ces initiatives. Dans ton article notamment et d'autres témoignages, on montre bien ça, que ça a été vraiment un crève-cœur aussi, enfin que ça a été très mal vécu par certains des acteurs et des actrices qui se sont retrouvés vraiment à ne plus faire ce qu'ils étaient désireux de faire à la base.
Oui. Oui, mais c'est vraiment effectivement un gros dilemme et un crève-cœur, comme tu le dis, en particulier avec les acteurs qui ont été là peut-être depuis le début. Hein, il y a aussi une perte petit à petit de cette dimension-là militante et idéale au fur et à mesure que voilà, le personnel se renouvelle et donc arrive dans un contexte qui est celui qu'il est aujourd'hui, mais qui n'ont peut-être pas vécu toutes ces dérives et toutes ces évolutions. Mais c'est évident qu'il y a énormément de personnes qui... alors, il faut dire aussi que ces idéaux restent présents. Hein, c'est-à-dire que ça reste un secteur qui se voit lui-même comme un secteur militant, comme un secteur qui est d'abord au service de ce qu'ils appellent ses usagers, ou en tout cas des stagiaires qui le fréquentent, etc. Donc, c'est traversé de contradictions extrêmement fortes et qui sont de plus en plus difficiles à vivre, effectivement, parce que au cœur de ces contradictions, il y a cette notion d'emploi, il y a cette volonté, alors elle n'est pas neuve, hein, dès les premières reconnaissances institutionnelles, il y a une volonté d'instrumentalisation par les pouvoirs subsidiants de dire la priorité, c'est quand même de remettre les gens au boulot, hein, peu importe le boulot, ce pourquoi on vous finance avant tout, c'est pour ça. Or, les structures, évidemment, freinent des cas de fer et disent non, la priorité, c'est à travers le boulot. Donc, l'emploi n'est qu'un moyen pour ces structures. Pour les pouvoirs subsidiants, c'est une fin en soi. Pour ces structures, ça n'est qu'un moyen parmi d'autres de permettre aux personnes de se reconstruire, de trouver un sens à ce qu'elles font, de pouvoir participer à la société. Et donc, emploi salarié ou pas, on s'en fout. L'idée, c'est effectivement de passer plus par le travail et non pas tellement par l'emploi pour retrouver un petit peu ce lien social, ce sens, etc. Mais évidemment, les pouvoirs publics, à la fois à travers la carotte de la subvention, mais aussi le bâton de toutes les politiques qui sont mises en œuvre sur le côté, parviennent de plus en plus à dévoyer cet objectif-là. Et donc, on a ce côté paradoxal où finalement, les emplois via lesquels on est censé réinsérer les personnes sont non seulement des emplois qui sont de plus en plus inexistants, il y en a de moins en moins, mais en plus sont de moins en moins des emplois qui permettent effectivement cette insertion, y compris économique et encore moins sociale. C'est des boulots précaires, c'est des boulots qui n'ont pas de sens, qui sont mal payés, etc. Et donc on ne peut pas voir à travers ces boulots-là des facteurs d'émancipation socio-économique et même y compris des facteurs de stabilité économique, hein, ce qui devrait être à minima quand même un emploi. Donc ça c'est vraiment une très très grosse contradiction qui est effectivement très mal vécue et qui l'est de moins en moins, hein, puisque la situation s'aggrave, quoi.
Et alors ce qui est pointé aussi dans l'un ou l'autre entretien que tu as effectué, c'est aussi la situation dans laquelle les formateurs se retrouvent tiraillés entre devoir faire du chiffre, on va dire, enfin devoir rendre des comptes aux pouvoirs subsidiants pour justifier de l'encadrement de X stagiaires et la nécessaire relation de confiance qu'il faut pouvoir tisser avec les personnes avec qui on travaille, qui sont en général dans des situations bien graves. Et aussi, ce qui ressort, c'est clairement une modification de la situation dans laquelle sont les gens qui arrivent dans ces organisations d'ISP. C'est que leur situation même mentale, psychologique, est bien plus grave en général qu'au début de l'ISP.
Oui, oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment un des constats qui est assez dramatique en termes de contradiction. Hein. C'est une des personnes qu'on interviewe effectivement pour la revue ici qui explique ça et qui dit d'une part, on a une évolution du marché du travail qui fait que les emplois disponibles pour les personnes peu qualifiées, celles qu'on appelle pudiquement les plus éloignées de l'emploi, hein, c'est la terminologie officielle, c'est-à-dire les personnes les plus éloignées de l'emploi, ce sont elles qu'il faut prioritairement réinsérer via ces structures-là. Or, les emplois disponibles pour elles sont de moins en moins nombreux. C'est-à-dire que le marché du travail est de plus en plus exigeant. Il demande de la qualification, de parler plusieurs langues, de pouvoir maîtriser les outils informatiques, etc. Donc, le marché du travail est de plus en plus... Enfin, les employeurs, en fait, hein, concrètement, sont de plus en plus exigeants parce qu'ils ont les moyens de l'être. Et par ailleurs, donc c'est de plus en plus difficile pour ce public-là, même s'il était inchangé, de retrouver effectivement des opportunités d'emploi. Et par ailleurs, les politiques qui sont menées stigmatisent de plus en plus ces personnes, conduisent de plus en plus à des situations d'exclusion qui sont tellement graves que quand elles arrivent dans ces centres-là, le fait de retrouver un boulot, c'est le cadet de leurs soucis. Et donc, on se retrouve avec des centres qui, en plus, font face eux-mêmes à des logiques d'austérité, à des logiques de mise en concurrence, de performance, donc qui doivent de plus en plus rendre des comptes, prouver qu'ils utilisent bien les fonds qu'on leur donne, etc. Sauf qu'ils sont face, d'une part, à des publics de plus en plus fragilisés, avec des problématiques de plus en plus lourdes, eux-mêmes avec de moins en moins de moyens pour y faire face, et en plus, de moins en moins d'opportunités de réinsertion concrète. Donc, c'est vraiment des situations qui sont extrêmement compliquées. Et on rajoute à ça le fait que, effectivement, beaucoup d'entre eux vivent très mal cette double casquette entre accompagnement, enfin ce pourquoi ils ont choisi ce boulot-là la plupart du temps, c'est-à-dire aider des personnes concrètement, construire avec elles un projet, essayer de voir comment on peut les aider à trouver un sens à des choses, etc. Enfin vraiment faire de l'accompagnement entre adultes idéalement, et au contraire ce rôle de contrôleur, de dire t'es pas là, t'es pas venu, l'absence, ben il va falloir que je le dise au forum, tu vas peut-être être exclu, etc. Mais enfin c'est à toi de te responsabiliser. Et donc ce rôle-là de gendarme quoi, que beaucoup vivent très très mal. Alors certains le vivent mieux que d'autres malheureusement, mais beaucoup encore heureusement le vivent très très mal, et c'est vrai que ça dénature complètement le truc, avec parfois et de plus en plus malheureusement depuis l'activation des publics qui sont là uniquement parce qu'ils n'ont pas le choix. Et donc on se retrouve aussi à devoir donner des formations à des personnes qui n'ont pas envie d'être là, qui ne trouvent pas le sens et qui sont simplement là pour avoir le papier, et voilà. Donc c'est vrai que c'est très difficile, y compris pour les travailleurs. Donc c'est pour ça qu'on a voulu mettre en parallèle aussi le fait que les grandes victimes de ces politiques-là et de l'évolution actuelle du secteur, c'est à la fois évidemment les usagers et les personnes au service duquel ce secteur est censé fonctionner, mais aussi les travailleurs eux-mêmes, quoi.
Les travailleurs du système. Et justement, il y a deux articles, il y a à la fois dans la revue le fait de faire bien ce parallèle entre la mise en place de politiques austéritaires depuis le début des années 80 et que ça a été main dans la main, en fait, la restructuration de ce secteur de l'ISP avec la restructuration au niveau des politiques d'austérité, la flexibilisation du marché de l'emploi et des travailleurs, donc. Et donc la question qui se pose, c'est effectivement de la part d'acteurs critiques, on va dire, c'est se dire, oui, insérer, mais dans quoi, et réinsérer dans quoi, et pourquoi faire. Et tu l'as déjà évoqué, c'est effectivement perdre aussi cette volonté peut-être de changer le système en y étant complètement englué de par ces subventions.
Oui, c'est très compliqué. Il y a une revue de la fédération wallonne, hein, donc c'est l'Interfédé, c'est l'interfédération des grandes fédérations des structures de l'ISP qui sort une petite revue. Et donc au moment des 30 ans du secteur, des 40 ans du secteur, ils avaient sorti un peu on s'est beaucoup appuyé là-dessus, des dossiers un peu historiques, etc. Et avec des témoignages de personnes qui avaient vécu justement différents glissements. Et donc je cite notamment un des pionniers du secteur qui explique, y compris à travers les termes. Il disait, au début, on était dans de la lutte contre l'exclusion, et puis on est passé à de la réinsertion, et puis on est passé à de l'insertion. Et il dit, ce glissement-là, il n'est pas anodin, quoi. C'est-à-dire qu'au début, il y avait vraiment une volonté collective, effectivement, d'aider des personnes, mais surtout de lutter contre les causes qui ont fait qu'elles étaient dans cette situation-là. Donc il y avait vraiment une perspective militante de changer la société, de changer ce qui fait que ces personnes sont dans cette situation, aussi en les aidant directement, hein, donc il y avait les deux, quoi, il y avait une articulation. Puis il dit, voilà, petit à petit, on est passé à de la réinsertion, c'est-à-dire que des personnes qui, à un moment donné, s'étaient retrouvées exclues, on va essayer de les réinsérer dans quelque chose, mais donc ça charrie tout un imaginaire où ce quelque chose n'est plus interrogé. C'est-à-dire, il est là, il faut faire avec, hein, le marché du travail est là, et donc il faut réinsérer des personnes dedans. Et la dernière évolution, c'est qu'on ne parle même plus de réinsérer, on parle d'insérer tout court, parce qu'en fait, on est de plus en plus face à des personnes qui n'ont jamais été insérées dans ce marché du travail. Mais donc, il y a toute cette idéologie, cet imaginaire de l'insertion, donc ce terme-là même qui doit être mis en cause, en fait, qui devrait être mis en cause, parce qu'il implique qu'on prend pour acquis, on légitime ce dans quoi on va insérer les gens. Or, le gros problème à l'heure actuelle, c'est que ce dans quoi on veut insérer les gens est profondément dysfonctionnel. Et donc, il y a pas vrai, enfin voilà, ça, il faut vraiment s'interroger sur le bien fondé de cet objectif-là. Est-ce qu'on veut vraiment les insérer? Par ailleurs, il y a aussi une critique à faire de cette notion d'inclusion-exclusion, hein. Bruno Frère, qui est un des auteurs du numéro, le fait très bien, il le rappelle très bien, et d'autres auteurs le rappellent aussi. Parler d'exclus, c'est nier le fait qu'en fait, ces exclus, soi-disant, ils ont un rôle fonctionnel dans la société. Donc, en fait, ils sont parfaitement insérés dans la société, mais simplement, ils jouent le rôle qu'on leur confie, c'est-à-dire de repoussoir, de mise sous pression du marché du travail par l'exemple, hein, dire, regardez, tous ces chômeurs, ils sont obligés de s'activer, etc. Regardez ce qui va vous arriver si jamais vous critiquez un petit peu trop, revendiquez un peu trop de meilleures conditions de travail. Donc, en fait, ils sont même pas exclus, ils sont insérés et ils sont parfaitement fonctionnels au système tel qu'il fonctionne à l'heure actuelle, quoi.
Et cette évolution du secteur, elle est pas uniquement belgo-belge, on va dire, elle est clairement imposée aussi par l'évolution des politiques européennes, et dans son article, notamment Corinne Gobin montre bien aussi ce parallèle qu'il peut y avoir entre les politiques européennes et l'évolution aussi de ces politiques et la façon d'envisager l'insertion socio-professionnelle, et aussi elle évoque un peu le rôle des syndicats et comment les syndicats peuvent se positionner par rapport à cette question-là et à cette question de l'insertion, de la réinsertion.
Oui, mais l'article de Corinne, en fait, c'est un vieil article, pour être tout à fait honnête. Elle l'a écrit en 2009, en anglais, je pense. Il est reparu en 2013 en français. Mais on a vraiment trouvé fondamental de l'inclure, parce qu'effectivement, c'est un article, c'est un des rares articles déjà qui analyse un peu ce fameux tournant néolibéral, mais du point de vue belge. Donc ça a relativement peu été fait. Je pense que Corinne est une des rares à l'avoir vraiment ciblé à travers des moments, à travers des textes, des conférences, etc. Et alors, elle raccroche effectivement, évidemment, cette histoire-là, ce tournant-là en Belgique, qui a été quand même le deuxième pays après l'Angleterre à adopter ce fameux tournant néolibéral. Hein. Donc c'est en 81 que ça se fait chez nous, c'est extrêmement tôt par rapport à d'autres pays. Évidemment, ça se fait en parallèle avec des évolutions européennes qui vont accentuer ça et qui vont cadenasser aussi toute une série d'orientations. À commencer par ce qu'elle appelle, alors le titre de son article assez clair, hein, c'est la guerre de l'emploi contre le salaire. Et donc va se jouer notamment au moment de ce tournant néolibéral en Belgique, mais plus largement à l'échelle européenne, Ce basculement vers des... Et c'est là-dedans, effectivement, que les syndicats se sont retrouvés piégés, et le sont toujours, en fait. C'est de revendiquer de l'emploi pour l'emploi. Et donc, ce qu'on va nous dire à cette époque-là, il y a crise de l'emploi, il faut absolument renouer avec l'emploi. Or, les politiques qui sont mises en œuvre dans le cadre du néolibéralisme, ce sont des politiques qui, par définition, ne créent pas d'emploi, puisqu'elles sont austéritaires. C'est le but premier du programme néolibéral, c'est de lutter contre l'inflation, et de lutter surtout contre l'inflation par les salaires. Hein, donc, le but, c'est surtout de garder les salaires le plus bas possible, idéalement en ayant un certain niveau de chômage. Donc, c'est des politiques qui créent du chômage à dessein. Il y a ce fameux Nehru, hein, c'est ce fameux indicateur qui a été développé par l'OCDE au même moment, qui explique quel taux de chômage en dessous duquel il ne faut pas aller, sinon les salaires vont commencer à augmenter parce que les travailleurs ont un trop gros pouvoir de négociation. Donc ce sont des politiques qui créent du chômage, qui légitiment du chômage, mais qui au même moment vont permettre de dire « Oui, mais regardez, le chômage, c'est un tel problème qu'il va falloir mettre des politiques d'emploi en place, il va falloir favoriser la création d'emplois ». Et comment est-ce qu'on favorise la création d'emplois dans une perspective néolibérale? Bah, c'est en flexibilisant, c'est en réduisant le coût du travail, et c'est en incitant les chômeurs à se rendre le plus employable possible. Et donc, on est vraiment coincé dans cette logique-là, puisque au nom de l'emploi, on casse les salaires, on casse tout ce qui était lié en fait à l'emploi. Donc, cette espèce de compromis qui avait été obtenu par la classe ouvrière dans le cadre de l'emploi, qui consistait à dire, OK, on va délaisser le contrôle sur le contenu du travail, sur la production, etc. Mais en échange, on va obtenir de l'emploi qui nous protège, puisque on va admettre qu'on a un statut subordonné dans le cadre de l'emploi. C'est ce qui définit l'emploi, c'est une relation de subordination. Mais dans le cadre de cette subordination-là, on va être protégé, et donc l'employeur est responsable de nous assurer une sécurité, de nous assurer une représentation collective, etc., etc. Or, tout ça va être vidé complètement de sa substance, ne reste qu'une coquille vide de l'emploi, au nom de laquelle on casse tout le reste, et on est toujours là-dedans. Et effectivement, les syndicats eux-mêmes en sont toujours à revendiquer de l'emploi, de l'emploi, de l'emploi, et donc à accepter des baisses de cotisations, à accepter des exonérations multiples et diverses, qui fait qu'on casse le salaire, on casse la redistribution au nom d'un emploi qui est de moins en moins justifiable, quoi.
Et justement, ici, ça fait clairement lien aussi avec le détricotage de la sécurité sociale telle qu'on le voit maintenant, et du fait que malgré le fait que l'emploi salarié soit survalorisé, on essaye aussi de financer la sécurité sociale par des voies autres, et notamment c'est les revendications pour une autre fiscalité. Et donc, c'est le paradoxe de ces revendications qui sont portées par les syndicats, par les mouvements associatifs, de se dire, ben, est-ce que on n'en oublie pas que le fondement de la sécurité sociale, en tout cas du financement de la sécurité sociale, c'est les cotisations liées au travail et à l'emploi, et donc ça.
Oui, tout à fait, mais il y a vraiment une intégration très très malheureuse, hein, c'est moins qu'on puisse dire, de cette idée que le travail coûte trop cher, quoi. Hein. Ça, c'est vraiment un truc qui a percolé, y compris au sein des organisations syndicales, et donc il faut, oui, de fait, on est dans un contexte concurrentiel, compétitivité, etc. Il faut faire en sorte que le travail coûte moins cher. Et donc, on accepte, au nom du salaire poche, de baisser le salaire, la partie socialisée du salaire. Et donc ça, c'est dramatique, parce que c'est effectivement le principal gain. Hein. Alors, c'est très bien d'avoir un salaire poche qui permette de vivre, de consommer, etc. Mais le salaire socialisé, c'est vraiment un des gains majeurs de la classe ouvrière, en tout cas dans l'après-Seconde Guerre mondiale, mais qui trouve des prémices avant. C'est d'avoir un contrôle socialisé sur la production, d'avoir une autre pratique de la valeur, d'avoir des institutions qui sont garantes aussi de cette redistribution, etc. Et donc, attaquer ça, c'est extrêmement dommageable, et c'est scier la branche sur laquelle eux-mêmes sont assis. Hein. Parce qu'au fur et à mesure qu'on détricote le salaire socialisé, on détricote aussi les institutions qui lui sont liées, au sein desquelles normalement les syndicats ont représentativité prioritaire. Donc c'est effectivement un jeu très très dangereux, mais qui est joué au nom de nouveau de l'emploi. Il faut créer de l'emploi absolument par tous les moyens, y compris de l'emploi qui ne permet plus de financer ces institutions, ce salaire socialisé, cette sécurité sociale, etc. Donc c'est une pente extrêmement glissante, malheureusement. Et je pense qu'il faut renouer avec des affirmations fortes, de dire le travail ne peut pas coûter trop cher, parce que c'est lui qui crée la richesse. Ça n'a aucun sens de dire que le travail coûte trop cher. C'est lui qui crée la richesse, et donc l'ambition, c'est d'une part de récupérer un maximum de cette richesse, voire l'entièreté d'ailleurs, de cette richesse qui est créée, de cette valeur qui est créée par le travail, et de la socialiser, c'est-à-dire de se l'approprier pour pouvoir la distribuer, la négocier et la faire fonctionner selon des critères qu'on aura nous-mêmes décidés, quoi.
Et parallèlement à ça, il y a aussi, et Corinne Gobin le met en évidence dans son article, c'est aussi le fait que le système néolibéral rend les travailleurs complètement incapables, entre guillemets, et fait comme si les travailleurs et les chômeurs notamment étaient des inadaptés totaux qu'il faut absolument reformer et réformer. Et donc, elle met en avant le fait que ça dévoie aussi la notion de formation, qui serait une formation pour soi-même, pour devenir une meilleure personne, un meilleur militant éventuellement, un meilleur citoyen, et le fait que en permanence, on met en avant que si il y a du chômage, c'est parce que les travailleurs sont inadaptés aux besoins de l'entreprise. Et donc, je ne sais plus dans quel article, il y a un moment, on dit non, il faudrait changer ça, et il faudrait que les entreprises s'adaptent aussi, elles, à la réalité des gens et à qui ils sont.
Oui, bien sûr. Mais c'est, effectivement, elle le démontre très très bien, cette logique-là de... Oui, effectivement, de considérer qu'il y a à s'adapter en permanence et qu'on ne l'est jamais suffisamment, ce qui est d'autant plus paradoxal qu'elle le souligne elle-même, Corinne, elle le souligne très bien, qu'on n'a jamais été aussi formé, en fait. On n'a jamais eu des travailleurs et en gros une population aussi instruite, aussi formée. Enfin, c'est aussi un des gros acquis des luttes sociales passées, c'est d'avoir une obligation scolaire extrêmement longue, etc. Donc, en termes de qualification, en termes de formation, en termes de compétences, de connaissances, on n'a jamais été aussi formé, aussi compétent. Or, on passe notre temps à nous dire, vous ne l'êtes pas suffisamment, vous êtes inadapté, vous avez les nouvelles technologies, c'est pas possible, vous n'êtes pas assez flexible, vous n'êtes pas assez ceci, pas assez cela. Et c'est évidemment une tactique qui vise à fragiliser les travailleurs, qui vise à les isoler et qui vise à rendre impossible toute affirmation justement d'une maîtrise quelconque sur la production. Hein. C'est vraiment le leitmotiv principal des employeurs, c'est de dire vous êtes des incapables, nous sommes les grandes personnes et donc vous avez déjà bien de la chance si on vous donne une occasion de travailler pour nous et d'avoir un petit peu de salaire en échange, mais ne venez pas nous dire que vous savez comment vous y prendre, etc. et que vous pourriez éventuellement le faire vous-même, ça c'est entièrement faux. Ils essaient d'inculquer ça dans la tête de tout le monde, pas uniquement des chômeurs d'ailleurs. Et donc il y a cette espèce d'expression qui synthétise bien ça et qui est reprise malheureusement comme une revendication syndicale. Alors c'est extrêmement dangereux, c'est cette idée de formation tout au long de la vie qui est une revendication et consiste à dire oui, il faut nous donner les moyens de nous rendre en permanence aussi employables que possible, comme si on était effectivement en permanence dépassé par les nouveaux changements. Or ça c'est une stratégie managériale qui vise effectivement à s'assurer le pouvoir sur l'organisation du travail en faisant croire aux travailleurs qu'ils n'ont aucune compétence et qu'il faut en permanence se remettre en question, etc. Donc c'est un gros gros paradoxe d'actuel, de n'avoir jamais été. Alors le deuxième paradoxe, c'est d'être dans un discours de la pénurie permanente, elle le souligne aussi, nous expliquer il n'y a pas assez, il faut se serrer la ceinture, c'est pas possible, on dépense trop, etc. Or on n'a jamais autant produit, donc c'est vraiment les deux paradoxes fondamentaux à l'heure actuelle, mais qui sont profondément ancrés dans le débat public.
Et L'autre élément aussi qui est mis, enfin on l'a déjà évoqué, le fait de se réinsérer, mais dans quoi, qui est mis en avant justement dans l'article de Bruno Frère et Thierry Muller. Il y a l'autre élément, c'est le fait de et en lien avec ce qu'on vient de dire, que la notion de formation, ben, elle est passée de cette formation qui était présente dans l'ISP des débuts, à se former, à être en société, quoi, et maintenant à ne plus être que quelque chose, que la formation tout au long de la vie, si avant ça avait un caractère global, maintenant c'est de plus en plus uniquement si ça bénéficie aux entreprises, quoi, et donc si c'est très axé sur les besoins de l'entreprise et plus les besoins du citoyen. Et donc dans le dernier article de la revue, tu mets notamment en évidence quelques alternatives aussi d'insertion, et tu poses la question insérer autrement, et donc tu évoques notamment les initiatives de territoire zéro chômeur. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les différentes?
Oui, bien sûr. Bah, c'est vrai que voilà, le constat est tellement triste et dramatique à bien des égards, qu'effectivement on se demande tout de suite est-ce qu'il serait possible de faire autrement, dans quelle mesure. Est-ce que cette question déjà a un sens, hein, insérer autrement, chose qu'il faut déjà effectivement prendre un peu de recul par rapport à cette notion même d'insertion. Mais donc l'idée de ce dernier article, c'était quand même de dire oui, il existe évidemment des revendications, des mobilisations, notamment des travailleurs du secteur, mais aussi des usagers, pour revendiquer une autre insertion, une meilleure insertion, pour autant que ce soit possible. Donc il existe des, voilà, par exemple, revenir en arrière sur cette notion d'activation et donc d'obligation, et donc de faire en sorte que le secteur de l'insertion ne soit plus partie prenante de ces logiques-là, et idéalement d'annuler ces logiques-là tout simplement, parce qu'elles dénaturent complètement, c'est le principe même de la formation, c'est-à-dire que les personnes sont obligées d'y aller, sous peine de se voir exclues de leur allocation de chômage, et donc évidemment ça n'a plus aucune portée d'émancipation à partir du moment où on est obligé d'y être, ou en tout cas qu'il y a une menace de contrainte si on n'y est pas. Donc il y a toute une série de revendications qui sont dans ce cadre-là, mais qui butent sur le problème de l'emploi et le problème de ce dans quoi on va insérer. Donc effectivement, après, on se tourne dans l'article sur les deux grandes alternatives qui sont mises en avant aujourd'hui par rapport à la crise de l'emploi d'une manière générale. C'est d'une part la garantie d'emploi, et donc les expériences de territoire zéro chômeur s'inscrivent là-dedans. C'est l'idée que, en fait, c'est pas le travail qui manque, c'est les emplois. Et donc, s'il n'y a pas assez d'emplois dans le secteur privé, ben, on va proposer des schémas de garantie d'emploi public. Donc, l'expérience qui est menée en France sous l'appellation de territoire zéro chômeur, et que la région wallonne et la région bruxelloise comptent expérimenter aussi, en tout cas, c'est dans leur déclaration de politique régionale. L'idée, c'est donc de créer des entreprises à but d'emploi qui sont animées par des comités qui sont composés de représentants des collectivités locales, etc. Et donc, le but, c'est avec ces comités de pilotage d'identifier des besoins non assouvis par le marché sur un territoire donné, et de donner la possibilité à ces personnes dites éloignées de l'emploi, de nouveau c'est une terminologie pas terrible, c'est comme ça qu'on les appelle, de donner la possibilité à ces personnes-là, bah, donc de participer à ces entreprises, et donc de ne plus finalement financer des allocations de chômage, mais de financer du travail correct, hein, donc payé au salaire minimum, avec accès aux droits, etc., pour faire des choses qui doivent être faites, mais qui ne sont pas faites par le marché. Donc ça, c'est une des premières initiatives alternatives qui est mise en avant. L'autre, évidemment, grosse alternative, c'est la garantie de revenus. Donc, il ne s'agit plus tellement de garantir un emploi, mais il s'agit de garantir un revenu. Et donc là, on tombe dans toutes les propositions de revenu universel, d'allocation universelle, de voilà, tout ce qui est revenu de base, etc., qui ont le vent en poupe, hein, depuis les années 80, précisément depuis cette crise de l'emploi, mais qui reviennent au devant de la scène à chaque nouvelle crise, avec l'automatisation maintenant, avec le changement climatique. On nous explique, oui, mais ça va être une manière de lutter contre le productivisme, etc. Et donc j'essaie dans cet article-là de faire un peu le bilan de ces deux types d'alternatives, de ces deux voies alternatives qui parfois s'opposent. Les partisans du revenu d'existence mettent en avant le fait que au moins ça garantit la liberté, et les partisans d'une garantie d'emploi disent oui, mais en même temps les gens ont besoin de travailler, de se sentir investis, etc. Donc chacun a ses arguments, mais ce qu'on essaie de mettre en avant, c'est qu'ils butent tous les deux sur le fonctionnement par défaut de l'économie de marché. En fait, c'est le cadre dans lequel les garanties d'emploi, c'est clair. Les mesures de garantie de revenus, ça c'est un peu plus compliqué parce qu'il y en a énormément, mais en tout cas celles qui sont dominantes et qui sont présentées dans le débat public, que ce soit à gauche avec Philippe Defaite par exemple chez Écolo, ou à droite avec Georges-Louis Boucher, sa proposition aussi de revenus inconditionnels, elles s'inscrivent quand même dans l'idée que l'économie fonctionne sur une base marchande, on est dans une économie capitaliste, et donc on va essayer de compenser les problèmes que ça crée en termes d'emploi et d'accès aux revenus, soit par des garanties d'emploi, soit par des garanties de revenus. Mais donc on n'interroge pas le fonctionnement même de la société, et ça pose des gros problèmes en termes d'emploi, mais aussi de lutte contre les changements climatiques, de lutte contre les crises écologiques diverses. J'essaye de montrer en quoi ça bute sur ces problèmes-là, et en quoi, si on veut réellement penser un accompagnement des personnes qui se fassent effectivement au service de leur émancipation, y compris par le travail, il faut refonder le travail radicalement et donc se le réapproprier. Donc en fait, sortir du capitalisme quelque part, c'est un peu un préalable quasiment indispensable à un accompagnement qui se fasse véritablement au service de l'émancipation individuelle et collective des personnes, à commencer par le travail, quoi. Donc voilà, c'est un peu l'ambition de ce dernier article là. Qu'est-ce qu'il est?
Effectivement, on se rend bien compte que dès qu'on met en place en avant certaines alternative, on bute justement avec le système tel qu'il est, et donc soit on se retrouve confronté à des petits arrangements qui globalement ne vont pas changer grand-chose, c'est-à-dire l'ISP qui va insérer des gens dans un système mal fichu et profondément inégalitaire aussi, ou complètement sortir de ça, et c'est largement impossible aussi. C'est un peu le nœud de la difficulté des acteurs qui sont institutionnalisés, professionnalisés, comme l'ISP, qui se retrouve avec une contrainte inouïe due à son financement. Les syndicats aussi se retrouvent un peu enfermés dans cette incapacité de partir sur des bases complètement nouvelles. Ça, plus le système général mondial.
Oui, c'est ça. Oui. Donc, les défis sont effectivement énormes. Ce qui est très compliqué, c'est de la tête dans le guidon, de garder effectivement une perspective de changement structurel, de transformation, etc., et de lutter pour. C'est ça qui est compliqué. Donc, perdre de vue ça, alors effectivement, on tombe dans les petits arrangements, dans le dévoiement, et petit à petit, et au bout de 10-20 ans, on se dit, oula, on a complètement dévié par rapport à ce qu'on essayait de viser au début. Mais effectivement, on ne peut pas. Enfin, c'est très compliqué, en particulier pour un secteur qui est professionnalisé, qui est subventionné, etc., d'avoir une pratique révolutionnaire radicale au jour le jour. C'est carrément impossible. Forcément, c'est une contradiction dans les termes. Mais il n'empêche, et or, il y a des besoins qui sont remplis par ce secteur-là. Il faut quand même le redire que l'énorme majorité des travailleurs font un boulot incroyable sous contraintes monstrueuses. Ils trichent un peu, ils trichent un peu avec la réglementation, ils ne dénoncent pas forcément les personnes. Il y a vraiment un travail d'accompagnement qui est fait, avec, on l'a dit, des problématiques qui sont de plus en plus lourdes. Donc il ne s'agit pas de dire que ce secteur devrait disparaître du jour au lendemain, mais effectivement, il est de plus en plus mis au service de logiques qui vont à l'encontre même de ses objectifs officiels. Donc là, il y a vraiment une réinterrogation à faire, et dire comment est-ce qu'on renoue quand même avec une perspective militante de transformation sociale qui se fait en lien aussi avec d'autres acteurs, notamment avec les syndicats, mais aussi avec d'autres collectifs, etc. Donc là, il y a à renouer effectivement avec une pratique, avec un idéal militant qui va permettre de peser collectivement sur ces contraintes-là. C'est quand même un secteur qui est structuré, qui représente énormément d'emplois, paradoxalement. C'est un secteur qui de plus en plus génère lui-même de l'emploi pour remettre des personnes à l'emploi, donc c'est un peu un des paradoxes. Mais ils ont quand même du coup un poids institutionnel et politique qu'ils pourraient utiliser pour revendiquer toute une série de choses, et malheureusement c'est pas toujours le cas, ou en tout cas pas suffisamment à mon sens et au sens de toute une série de travailleurs de ces secteurs-là, notamment sur la question de l'activation, où c'est quelque chose qui a été accepté et qui n'est plus tellement remis en cause, et qui est vraiment au cœur d'énormément de contradictions qu'ils vivent à l'heure actuelle et qui pourrait être gagnable. C'est-à-dire ça pourrait être une cible très concrète qui est du ressort du gouvernement belge, donc on parle pas de modifier l'économie mondiale. Mais revenir en arrière sur cette logique d'activation et revenir à la situation d'avant 2004, c'est pas totalement aberrant, et ce serait une première revendication qui permettrait déjà de desserrer toute une série de contraintes extrêmement fortes qui pèsent sur les travailleurs et sur les usagers du secteur.
Et est-ce que c'est vers ça qu'on va, ou est-ce qu'il y a des indices qui montrent que aussi, justement, les grosses fédérations qui regroupent les acteurs, est-ce que c'est un discours qu'elles portent aussi elles-mêmes, ou elles sont plutôt à sauvegarder ce qui est encore sauvegardable?
On est plutôt dans cette logique-là, ou en tout cas, ce qui ressort. Alors, il y a une critique assez forte et récurrente de l'activation dans les fédérations et dans les grosses structures. Ce qu'elle revendique, par contre, c'est pas tellement la fin de l'activation, c'est la fin de leur enrôlement dedans. C'est-à-dire, arrêtez de nous obliger à rendre des comptes par rapport à ça, arrêtez de nous obliger à faire les flics. C'est pas notre rôle, donc faites ce que vous voulez de votre côté, mais nous, voilà, on n'a pas envie d'avoir affaire avec ça parce que ça dénature notre rôle et la relation, etc. Ce qui est vrai. Le problème, c'est que même si on les oblige plus à jouer formellement ce rôle-là, à partir du moment où il y a activation, ben, il y a contrainte. Et donc, les personnes qui vont fréquenter les centres vont le faire pour les mauvaises raisons, dans des mauvaises conditions, sous la menace de sanctions. Et donc, forcément, ça va dénaturer le boulot qui est fait dans ces structures. Et par ailleurs, ça va aggraver les situations qu'elles sont censées elles-mêmes essayer de résoudre par la suite. Donc, c'est très minimaliste comme revendication. Et malheureusement, à l'heure actuelle, on n'a pas vraiment une affirmation forte, mais pas uniquement dans le secteur, hein, au sein des syndicats, on l'entend pas spécialement non plus, de revenir en arrière sur l'activation, qui serait pourtant quelque chose d'assez logique, en fait, quand on voit le bilan de l'activation qui a pu être défendu à l'époque, et certaines personnes à gauche ont voulu s'aveugler sur le fait que ça pourrait être une bonne chose finalement pour les chômeurs. On voit très clairement que c'est un outil disciplinaire qui est mis au service de l'exclusion. Donc je crois qu'il est plus que temps de remettre en question cette logique là hein. Ce serait une première étape assez nécessaire et assez utile, oui.
Eh bien, on arrive à la fin de l'émission, en fait. Merci beaucoup, Cédric Leterme, d'être venu nous présenter ce numéro de Grésea Echo, l'insertion socio-professionnelle des prémices militantes au dévoiement politique. On peut se le procurer?
Alors, il est commandable via le site du Grésea, évidemment. Vous pouvez vous abonner aussi, comme ça vous aurez accès à tous les numéros qui sortent sur l'année. Et sinon, il est disponible dans toute une série de librairies qui sont, je pense, aussi listées sur le site. Donc, il y en a toute une série à Bruxelles, mais aussi à Liège, oui. Namur, voilà.
Point Culture, Livre au Trésor, Tulitu, Librairie Saint-Gilles, La Licorne, voilà. Etc. Merci beaucoup d'être venu de loin ce matin, et eh bien on va se quitter pour aujourd'hui, et puis jusqu'au 1er septembre, en fait, les matinales du mercredi en tout cas prennent congé de vous.